Il explore chaque jour des affaires criminelles sur RTL. Morts violentes, disparitions, assassinats, règlements de compte. Jean-Alphonse Richard publie un ouvrage consacré à ses plus beaux dossiers. Des histoires passionnantes qu'il va évoquer aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour à tous.
Je ne vous présente pas Dominique Rizet parce que vous nous faites le plaisir et l'honneur de venir à de très nombreuses reprises.
Vous nous manquez, ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas vu.
Absolument, et moi je me demandais ce qui se passait, mais je suis toujours ravi de venir vous voir. Donc,
voilà, faire naître le désir. Le manque vient du désir et le désir vient du manque. Pourquoi vous avez fait ce livre? Et est-ce que ça change de votre travail habituel sur RTL?
Alors, le livre, c'est la continuité presque naturelle de l'émission L'Heure du Crime, hein, qui est une quotidienne chez nous sur RTL. Et évidemment, on a repris avec Justine Vigneault, qui est la rédactrice en chef de l'émission, on a repris ce qu'on pense être des très bonnes histoires qu'on a fait dans L'Heure du Crime, parce que ce qu'on essaie de faire, et également dans l'affaire suivante où on suit l'actualité, où je viens souvent et avec plaisir, on essaie de sortir des histoires qui sont pas très connues, où la documentation est difficile à trouver, la mémoire a été effacée souvent, etc. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Voilà pourquoi on a décidé de faire ce livre. 30 histoires.
30 histoires. Il y en a une ou deux ou quelques-unes qui vous ont marqué, et si oui lesquelles et si oui pourquoi?
Alors, les 30 histoires m'ont marqué. Je vais pas faire un classement, parce que il faut savoir qu'en matière de faits divers, Dominique connaît ça par cœur, il y a pas une histoire qui se ressemble. Quand vous dites cold case, il y a pas un cold case qui se ressemble. Quand vous dites un assassinat, il y a pas un assassinat qui se ressemble. Il y a pas une psychologie qui ressemble à une autre. Alors les histoires, on peut en évoquer quelques-unes si vous voulez.
On vous laisse choisir.
Voilà, je
vous
parler d'une histoire qu'on connaît mal et qu'on connaît peu, même si elle a fait énormément de bruit à l'époque. Un bruit étouffé d'ailleurs, un bruit feutré, parce que ça se passe dans les beaux quartiers, ça se passe au Trocadéro. C'est l'affaire Philippe Néjon. Philippe Néjon, polytechnicien, marié à une femme qui est fille d'ambassadeur. On est dans les beaux quartiers.
Façade sans histoire.
On est dans la bonne société. 3 enfants, qui sont pas très grands, 8 ans, 13 ans et 6 ans. Et ce jour-là, les policiers sont alertés parce qu'il y a des coups de feu dans cet hôtel particulier où habite la famille Néjon. Et coups de feu dans ce quartier, c'est rare. Donc on se précipite, et là on va au premier étage, et on trouve Philippe Néjon qui est dans un semi-coma, il a bu de l'alcool et il a pris des médicaments. Et surtout on découvre un massacre dans cet immeuble. On retrouve effectivement un des garçons qui est tué juste à côté, on l'a tiré dessus à la vanne de Longrif. On découvre l'épouse qui a été massacrée à coups de crosse dans un escalier, et puis au sous-sol on découvre un des enfants qui est encore vivant mais il va décéder à l'hôpital, qui a été étranglé avec un lacet et frappé à coups de marteau. C'est dire la violence extrême de ce crime. Et il y a une petite fille qui s'appelle Isabelle, elle a 6 ans, et elle, on va la retrouver dans un placard. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que l'officier de police qui s'occupe de l'histoire, qui arrive, qui est un père de famille, il va être abasourdi. Et ça va le marquer à vie. On parle pas souvent des enquêteurs, mais ils sont confrontés à ce genre de... Et il va dire, j'ai vu la petite fille, elle ne pleurait pas, mais elle me regardait fixement. Et cette petite fille va porter... une femme aujourd'hui qui vit toujours va porter toute sa vie cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Philippe Néjon, il supportait pas le divorce. Donc voilà, ça c'est
un
grand classique. Il va dire, pour un mari normal, le divorce, ça va, pour moi, c'est inadmissible. Il va se rétracter, il va avouer les faits à la sortie du coma, puis ensuite il va se rétracter, il y aura un procès, il écopera de 30 ans de prison, 20 ans de sûreté, il fera finalement 10 ans de prison. Voilà, ça c'est une histoire qui est frappante et qui est marquante parce qu'elle appelle à la psychologie et quasiment à la psychiatrie des acteurs. Et ça c'est très important en matière de crime, la psychologie, la psychiatrie.
Mais j'ai une question qui est à la fois bateau classique et impossible d'y répondre. Mais est-ce qu'il y a des points communs que vous retrouvez dans toutes ces affaires entre les coupables, les victimes? Est-ce qu'il y a des traits de caractère, des traits sociétaux? Ou alors, comme vous disiez un peu, à chaque fois c'est à ce point-là différent qu'on ne peut pas préjuger.
Non, on peut pas préjuger. C'est très compliqué. Les psychologies sont très diverses et différentes. Je suis pas psychiatre du tout, mais les psychiatres expliquent ça très très bien, hein, notamment sur les tueurs en série, par exemple. Ça, c'est très variable d'un tueur à série à l'autre. Et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a aussi, j'ai envie de dire, le miroir renversé, c'est-à-dire que il faut parler des familles et des victimes. Nous, on en parle beaucoup dans l'heure du crime. Ouais. Et très souvent, vous voyez, j'écoutais à l'instant vos invités là, juste à l'histoire avant de cette jeune femme,
la mère de Julie.
Disparu de Betty qui se bat pour sa fille. Il faut saluer les familles parce que très souvent et hélas encore trop souvent aujourd'hui, c'est grâce aux familles que les enquêtes repartent. Et ça, c'est important de le dire.
Regardez, j'avais le doigt sur la phrase. Les affaires portent toujours le nom des tueurs, plus rarement ceux de leurs victimes.
Ça, c'est la préface de l'ouvrage, effectivement.
Et c'est tellement vrai.
Ben
et
oui,
c'est tellement vrai.
Alors vous dites évidemment, vous dites l'affaire Fourniret.
Ouais. Mais qui connaît les noms des victimes?
Qui connaît les noms des victimes? Ouais. Vous allez dire, effectivement, l'affaire Émile Louis. Qui connaît les victimes d'Émile Louis? Ouais. Moi-même, je les connais pas par cœur.
Cherche un, j'en trouve pas.
Voilà, mais j'essaie de les retenir. Et effectivement.
Francis Holm.
Voilà, Francis Holm. Très souvent, les victimes. Le tueur. L'assassin chasse la victime. Et ça, c'est un peu en train de changer. Il y a une évolution en matière criminelle.
Parce qu'un jour, on a dit, on va remettre les victimes, il y a 30 ans, au cœur du débat. Et sont nées des associations de défense des victimes. D'ailleurs, on parlait dans l'émission précédente, que vous connaissez par cœur, dans le sujet précédent, Julie, l'association de recherche des personnes disparues, ça n'existait pas à l'époque,
non.
Tout ça.
Et
les gens étaient seuls avec leur mystère.
Ils font un boulot formidable. Ouais. Il faut bien le souligner. L'association, hommage à certaines de vos associations, moi je pense toujours aux disparus de Lyon, c'est une région que vous connaissez parfaitement.
Très bien.
Là, effectivement, il y a eu un travail associatif.
Comment il s'appelait ce monsieur qui avait des cheveux bruns, là, qui avait monté l'association des disparus de Lyon?
Voilà.
Merveilleux.
Le nom m'échappe tout de suite, mais
en tout cas, on pense à lui et tout le monde va le chercher sur Internet, c'est facile à trouver.
Est-ce qu'il y a un crime parfait aujourd'hui? Est-ce que c'est possible, un crime parfait?
Ah oui, le crime parfait, il existe, puisqu'on ne sait pas. On ne le connaît pas. Il y a des crimes parfaits tous les jours. Il y a des crimes parfaits. Et également, alors, il y a des spécialistes qui vous disent que les crimes parfaits, il y en a beaucoup de manière intrafamiliale. Ouais. Notamment avec parfois des histoires d'héritage, de personnes âgées, etc. Alors là, il y en a beaucoup. Voilà, le crime parfait, c'est ça. Le crime parfait, il n'est pas révélé. Donc effectivement, il existe. Mais il y a d'autres histoires où ce sont pas des crimes parfaits. Oui.
Vous en avez l'autre à nous partager?
Alors, oui, bien sûr. Moi,
j'allais vous demander la recette d'une bonne histoire, en fait. Mais si vous avez un exemple, ce sera encore mieux.
La recette d'une bonne histoire, c'est très, très souvent, c'est le mystère.
Ouais.
C'est le mystère.
Le doute.
J'ai envie de vous parler de Jean Seberg.
Ouais. Hein,
Jean Seberg, à bout de souffle, etc.
Cette photo,
américaine.
On va rappeler, cheveux courts, t-shirt, avec le.
Tout le monde se souvient. Ouais, New York Herald Tribune. On connaît ça avec Belmondo, etc. Elle a incarné Jeanne d'Arc aussi. Et on est en 79 et on retrouve Jean Seberg à l'arrière de sa Renault 5 qui est mal garée dans une rue du 16e arrondissement. C'est un monsieur qui pouvait pas sortir sa voiture, qui est venu taper à la porte.
Il s'en passe des choses dans l'ouest parisien, dans le 16e finalement.
Il y a beaucoup dans les quartiers aisés.
Dans les beaux quartiers.
C'est pas les mêmes meurtres que dans les autres quartiers.
Non, c'est pas les mêmes. Il y a une typologie, effectivement, presque géographique du meurtre. Ça, c'est important.
Pardon, vous interrompez.
Et donc, on retrouve Jean Seberg qui est morte à l'arrière de sa voiture. Et là, c'est pas à l'honneur tout à fait de la police à l'époque. Parce que je pense que l'enquête, elle est bouclée beaucoup trop rapidement. On va dire, c'est une dépressive, elle avait des soucis, elle s'est suicidée. Et d'ailleurs, on trouve dans son organisme énormément d'alcool, une masse d'alcool terrifiante, avec quelques neuroleptiques. Mais la masse d'alcool, elle est tellement puissante qu'on va se dire, on lui a injecté de l'alcool. Ça, c'est un détail qui va troubler parce qu'on trouve aucune bouteille dans la voiture. Donc, c'est quelqu'un qui l'a mise dans la voiture. Alors, on va interroger son quatrième mari. C'est un Algérien, il s'appelle Ahmed Hasni. C'est un vaurien, Ahmed Hasni, c'est un petit escroc. Il lui a d'ailleurs volé de l'argent.
On a 2 minutes 30 encore, comme vous êtes un homme de...
Beaucoup d'argent à Jean Seberg.
Vous entendez-vous?
Eh bien, ça donnera rien. Parce que très vite et trop vite, on a bouclé l'affaire en parlant de suicide.
Et on ne sait pas.
Et on ne sait pas aujourd'hui.
Donc ça revient au doute et au mystère.
Oui, ça revient au doute et au mystère.
C'est un cold case.
C'est un cold case. Un petit mot encore, Catherine Fournier, par exemple. Ça, c'est une histoire qui est étonnante. Catherine Fournier, c'est une jeune femme qui disparaît près de Nîmes. Son mari, un ancien légionnaire, il est à Paris. Ouais. Donc il ne peut pas avoir tué sa femme, etc. Sauf que les gendarmes, là, ils vont avoir beaucoup de pif. Ils vont dire à lui, il n'est pas clair. ça va pas. Donc ils vont établir le fait qu'il est sans doute rentré de Paris jusqu'à Nîmes pour venir tuer sa femme. On va la retrouver 2 mois plus tard, dépecée, dans une forêt, quasiment décapitée. Et là, l'idée du juge, c'est de dire, on va faire une séance d'hypnose. On fait une séance d'hypnose, et le gars en question, le mari, ouais. Il va avouer, il a dépecé avec une scie, parle d'une hache, il a été soulagé après une séance de transe. Il parle de lui à la troisième personne, sauf que effectivement, les avocats vont dire tout ça, ça vaut rien. Et les psys vont dire, on l'a dépossédé de ses moyens. Alors c'est lui. Il y a eu une décompression, mais ça sera pas retenu.
Il y aura
un non-lieu. La famille a toujours pensé que c'était lui, ouais. Mais effectivement, cette personne n'a plus été poursuivie par la suite.
Et c'est peut-être lui. Alors, c'est ça qu'on a dans votre façon de raconter les histoires. Vous dites, son mari, c'est pas lui, il est pas là. Mais sauf que c'est peut-être lui quand même. Et en fait, c'est écrit, comme vous le racontez à la radio. Pareil, avec tout un tas. Il y a des encadrés qui sont bien là sur une histoire. Vous faites un encadré. Et vous dites, à l'époque, parce que c'est important, on peut pas comprendre, hein. Vous dites, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Les limites de la police scientifique dans les années 80. Vous racontez l'histoire et on risque de ne pas comprendre parce qu'aujourd'hui, ceux qui lisent n'ont plus les mêmes codes que ceux d'avant. Et vous expliquez, dans les années 80, c'était pas comme aujourd'hui. Donc voilà pourquoi cette affaire, on n'a pas trouvé, ou on a eu du mal à trouver.
La téléphonie.
Et ça, c'est bien.
La téléphonie, l'ADN, ça n'existait pas.
C'est pour ça que je vous posais la question sur le crime parfait, est-ce qu'il pouvait exister.
Il est de plus en plus difficile. Mais vous savez, les voleurs ont toujours quelques kilomètres d'avance sur les gendarmes.
Une seconde. Une passion en dehors du crime. Allez, une passion en amour.
L'automobile ancienne et sportive.
Ah, bravo.
La passion que vous partagez avec Dominique
Crézet. C'est important
que tout le monde le sache.
C'est pour ça qu'on est amis.
Vous connaissez la réponse à sa question. Merci beaucoup, Jean-Alphonse.